Et merde, je vous dis tout. La marque Adam et Ève, sensuelle et amusante, est mon sponsor du moment. Et je vais paraître kitsch parce que j'ai un mec et j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. En fait, je vois un peu ça comme l'occasion de se la jouer romantique, dentelle avec des fleurs, lingerie, me faire jouir. Adam et Ève m'a offert le parfait combo pour ça. Une robe ouverte avec longue fente au niveau des jambes, en lingerie noire transparente, idéal pour se sentir désiré, avec un vibromasseur parfait pour les couples. À stimulation interne et externe, peut être contrôlé dans le monde entier avec l'application WeConnect. Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15€ de réduction des 60€ d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Colette et je suis avec Lou.
Bonjour.
Bonjour Lou, comment vas-tu?
Ça va bien Colette et toi?
Très bien. Est-ce que tu préfères que je t'appelle Lou ou Loupche d'ailleurs?
Je préfère que tu m'appelles Lou.
Bah très bien. Pour info, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je lui demande si elle préfère s'appeler Lou ou Loupche parce que Loupche c'est le nom de son compte Instagram, / YouTube, / Messenger, apparemment.
Skype à la base.
Donc voilà, donc on veut s'assurer de bien nommer les personnes comme elles le souhaitent. Moi, tu peux m'appeler Coco, Colette, comme tu veux, Lara.
Non, Colette, c'est bien. Coco, c'est bien aussi. Solène, non. Voilà.
Salut à tous, donc c'est Colette du podcast Colette se confesse. C'est le média qui va enrichir ton imaginaire érotique grâce à deux formats. Donc j'ai deux formats, c'est les histoires immersives olé olé, grâce auxquelles chacun et chacune peuvent plonger à la découverte de ses envies. Et j'ai aussi les formats confession, donc c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Lou, où j'échange avec mes invités autour d'une anecdote amusante, parfois excitante, parfois triste, mais toutes sont terriblement sincères. Lou, oui. À nous deux.
Oui, je suis prête.
De quoi on va parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, moi, quand on a discuté toutes les deux, je me suis dit que j'avais très envie de parler de mon sujet de prédilection, qui est l'acceptation de son corps. Et pour moi, ça a été vraiment la sexualité qui a été un pivot. Où déconstruire le male gaze, ça a été vraiment quelque chose de très long, qui est encore en cours, évidemment. Et dans la sexualité, dans l'intime, je sais pas toi, mais moi, je suis persuadée que l'intime est politique. Et donc, du coup, c'est dans l'intime que tu vas déconstruire le plus de choses. Et du coup, accepter le fait que je suis grosse, tu vois. Accepter ça dans la sexualité. Accepter le fait que j'ai des poils. Tout ça, ça a été un chemin. Et vraiment, j'ai très envie qu'on en parle ensemble.
Trop bien. Et ça tombe très bien parce que je pense que nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes avec ces soucis-là. Parce que nous avons tous des poils, nous avons tous des formes, nous sommes tous des êtres humains. Et peut-être qu'après tout, ça s'arrête pas à ça, la sexualité. Enfin, je dis après tout, mais voilà, moi, je me fais des phrases rhétoriques toute seule, mais je vais lancer le générique et on va pouvoir y aller.
Ok.
Pourquoi j'ai eu envie d'inviter Lou à mon podcast? En fait, c'est assez simple, c'est que je l'ai découvert... j'étais découvert via une marque,
Ok. Ouais, assez étonnant, mais en fait, c'est en discutant avec une des marques que l'on bosse toutes les deux.
Ah ouais?
Ouais, et puis bah, parler de toi, et moi, je te connaissais pas au début, et je suis allée voir un peu ce que tu fais, et j'ai adoré ton énergie. Je me suis dit, ah bah oui, bah carrément. Enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, il y a quelque chose de très frais, de très, très, très nature, très sincère. Et quand on suit au téléphone, bah, ça m'a tout de suite réconfortée, en fait, dans cette idée-là, où je me suis dit, ok, bah, c'est trop cool, en fait, avec cette nana. Ouais, j'ai l'impression qu'on est déjà potes depuis X temps. L'échange est super simple et on dit les choses comme elles viennent. Et je pense que c'est ça que les gens apprécient, que les gens apprécient chez toi. Enfin, en tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Et ça se retrouve dans ton contenu. C'est sincère. Il y a quelque chose d'intègre qui est très chouette.
Ah, ça me fait plaisir que tu le ressentes parce que c'est vraiment mon objectif. Évidemment, avec le prisme de l'image, c'est quasiment impossible d'être 100% soi. Inévitablement, enfin, tu le sais, on rentre dans le cadre du média. Mais pour moi, c'est toujours l'objectif d'être le plus authentique possible, le plus vrai, le plus moi, sans artifice, quoi. Et ce qui est cool, c'est que justement, tu l'as ressenti. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Quand je les rencontre, bah là, tu vois, hier soir, j'étais à la bachata, je suis allée danser. Et j'ai croisé une abonnée là-bas qui est venue me voir et qui m'a dit vraiment, enfin, c'est. Genre, même vibe que sur tes stories, quoi. Et du coup, non, j'étais vraiment trop, trop contente à chaque fois, hier soir ou quand je croise des abonnés, de me dire, bah, quand elle me croise dans la rue, elle voit la même chose que ce qu'elle voit en story. Ça, c'est pour moi, c'est l'objectif, quoi.
T'as l'impression d'avoir travaillé ton rapport à l'image?
J'ai fait des sciences politiques. Au début, j'ai fait 3 ans, une licence de lettres et sciences politiques, et du coup, inévitablement, le rapport de la prise de parole en public, le travail critique sur l'image.
Suis en train de me cogner le micro avec ma tasse.
L'audiodescription, c'est que Colette juste détruit son propre décor.
Je suis tellement à l'aise que je fais de la merde.
J'oublie le micro, hop là.
Coup de plumeau sur le micro. Donc c'est lettres et sciences politiques.
Voilà, tout à fait. Et je me souviens notamment en L1 d'avoir eu tout un cours sur l'image et l'image publicitaire. Et du coup, en fait, le rapport à l'image et le fait d'accepter que ce que tu transmets, c'est jamais 100% la réalité à partir du moment où il y a un écran. Et bah, à partir du moment où tu l'intègres dans ton contenu, tu peux être plus authentique parce que tu sais que inévitablement il y aura un prisme. Et du coup, juste cette connaissance du média, du réseau, pour moi, ça c'est important pour pouvoir communiquer correctement et pour pas.
Quelle a été ta réflexion du coup quand tu as pris connaissance de ça en L1 quand tu t'es là tu avais déjà commencé à créer du contenu?
Non, c'était en 2013. J'ai commencé à vouloir ouvrir une chaîne YouTube en 2014 et j'ai ouvert ma chaîne YouTube fin 2016.
Ok.
Donc j'ai vraiment mis du temps. Mais à cette époque-là, non, j'étais vraiment en mode je vais sauver le monde en faisant de la politique. Ça, c'était vraiment genre. À 18-19 ans, j'étais investie comme jamais. J'ai juste pris le rapport à l'image et le fait que voilà, on peut tout maîtriser, tout instrumentaliser, manipuler avec les images et bah, je l'ai compris et du coup l'objectif c'est de pas le faire.
Ouais. Et donc, comment tu t'y prends du coup pour pas le faire? Quel est ton parti pris face à ça?
Bah par exemple, refuser toute retouche. Alors, évidemment, je vais pas faire genre que je suis au-dessus de tout le monde. J'utilise des filtres en story Insta, tu vois, pour lisser un peu le visage, le décor, la luminosité. Mais.
Le filtre avec la bouche de salope, là, c'est ça? Avec la bouche comme ça?
Le bol de glamour, là, non, quelle horreur. Non, mais tu vois une
Non,
petite
mais tu vois,
lumière,
je suis
t'amuses.
plutôt nature. J'utilise juste les filtres. Les filtres Snap. T'as vu?
Ah, faut que je
C'est
mette
bon.
sur Snapchat, c'est revenu à la mode de
Ah
ouf,
bon?
mais ouais, c'est un truc de fou, tout le
Oh
monde est sur
non.
Snap, je te jure.
Oh non. Attends, déjà TikTok. On y
Non,
va
moi c'est
tranquille.
bon, ça c'est maîtrisé, ça j'y suis, ça.
Oui, toi tu maîtrises bien, ouais. Tu vas falloir que tu me donnes des cours.
Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, tu vois, en montrant mon corps comme il est, je trouve que c'est aussi une façon de lutter contre. La manipulation de l'image et vendre quelque chose aux gens qui n'existent pas. Et en fait, moi, ce que je veux vendre, c'est, bah, regardez, ça, c'est mon corps, et le vôtre, il a la même valeur. Je mets mon corps en scène, je mets mon corps en photo sur les réseaux, je mets mon corps disponible pour qu'il soit liké, pour qu'il soit visible. Et en fait, bah, vous le voyez, vous le trouvez beau, alors que vous avez le même et que vous vous trouvez hideuse. Et enfin, vraiment, c'est tous les messages que je reçois, c'est ça, c'est... Je vois des photos de toi, je vois tes nudes et je me dis que t'es vraiment magnifique. Et après, je regarde dans le miroir et je me dis que j'ai le même corps et que je te ressemble alors que je me trouve super moche. Et ça, pour moi, c'est une victoire de fou que les personnes qui me regardent réalisent que, en me voyant, qu'elles réalisent leur beauté. Ça, c'est, pour moi, c'est ça la lutte contre cette manipulation des images. C'est donner des images pour que les personnes se retournent vers elles-mêmes et voient bah, la beauté qui les habite, elles, pas qu'elles essayent de ressembler. Tu vois, c'est ne pas essayer de ressembler à, mais s'inspirer pour être soi-même. C'est... Pour moi, c'est ça, réussir à véhiculer quelque chose.
Et ça a toujours été le cas, même quand tu as commencé, tu avais déjà ce rapport-là par rapport à toi-même. Ou est-ce qu'il y a une évolution
Ouais, parce que mon déclic, ça a été en 2013, quand ma meilleure amie m'a pris en photo. Et que j'avais 17 ans. Et vraiment, mais même pas. J'avais même pas 17 ans. Pardon. Voilà, désolée. Je me retourne. Je veux vraiment te parler en mode je pousse le micro comme si c'était un truc qui me gêne, quoi. Pour mieux te voir.
Déclic 2013. Déclic, ta meilleure pote.
17 ans. Ma meilleure amie me prend en photo parce qu'elle s'entraîne à la photo. Et c'est des photos semi-nues. Et en fait, quand je vois les photos, je me dis, mais. Je suis jolie. Enfin, la personne que je vois sur ces photos, Elle est belle. Et vraiment, je me suis dit, oh, j'ai pas besoin de maigrir. Tu sais, moi, j'étais. Je sais que t'as eu Harmonie en interview. J'ai un peu eu la même enfance à être mise au régime, à devoir manger des barres protéinées en snack parce que ça fait maigrir de manger des protéines. Enfin, tu vois, j'étais vraiment. Moi, toute ma vie, j'ai cru que pour être heureuse, il fallait que je sois mince. Toute ma vie, pardon, jusqu'à mes 16 ans, du coup. Et quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit, oh! Mais non, j'ai pas besoin de changer mon corps pour être belle et pour être heureuse. Et à cela s'est rajouté... Bon, ça, j'étais encore complètement épilée, j'étais encore complètement dans les standards autres, mais j'étais grosse. Ça, par contre, c'était le truc hors norme.
Mais quelque part, t'avais déjà accepté de faire des photos semi-nues. Et rien que ça, c'était déjà un énorme pas. Enfin, comment t'as fait pour accepter
Oh, waouh, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que j'avais un rapport à mon corps qui était quand même plutôt... comment dire, sensuel et sexuel très tôt. Ma première fois, elle était à 13 ans. Ma première fois, c'était entre gros guillemets, un plan à 3 à 12 ans et demi. Donc comment te dire que mon rapport à la sexualité, il n'est pas dans les normes. Et donc mon rapport au corps, je suppose, à mon corps, n'est pas dans les normes non plus. Donc du coup, je crois qu'à ouais, à 17 ans, je devais déjà avoir envoyé des nudes. J'ai un vague souvenir de ça.
Est-ce que tu penses que ce qui t'avait peut-être motivé à le faire, c'était de te dire, ah bah tiens, je vais plaire davantage si je me mets en scène de cette manière-là?
Les photos, elles n'avaient pas vocation à être publiées. Okay. Les photos qu'a faites ma meilleure amie, c'était vraiment pour s'entraîner. Donc il n'y avait pas un truc de mise en scène pour les autres. C'était vraiment pour elle et moi. Après, elles ont été publiées, je crois, effectivement. Elle a dû les mettre sur son Tumblr à l'époque. Mais pendant la prise de vue, enfin pendant le moment des photos... Il n'y avait pas d'autre objectif que de prendre des photos. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a libérée. Il n'y aura pas de regard autre que celui de ma meilleure amie. Peut-être que c'est ça qui m'a poussée à faire quand même la séance photo, tu vois.
Et tu disais qu'à ce moment-là, du coup, tu étais à fond dans les codes, donc tu t'épilais, tu faisais tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas?
Aujourd'hui, j'ai eu une grande période pendant 3-4 ans où j'ai vraiment pas du tout touché à mes poils. Vraiment pas. Et là, j'en suis revenue entre guillemets dans le sens où je danse la bachata et que c'est un milieu où on n'est pas sur de la déconstruction des codes hétéropatriarcaux, quoi. Du coup, on danse déjà très souvent homme qui lead, femme qui suit. Même si de temps en temps il y a des femmes qui lead et des hommes qui se laissent guider, mais c'est rarissime. Donc du coup, il y a le code hétéropatriarcal de base quand tu vas là-bas et il fait souvent très chaud, tu es collé aux gens, donc tu te retrouves très souvent en débardeur ou en tenue pour ne pas avoir chaud. et tu te retrouves très souvent les bras en l'air. Et donc moi, là, à ce moment-là, avoir des poils, c'est pas possible. Pour moi, ça dépasse en fait la vulnérabilité, la mise en péril, entre guillemets, que je peux, moi, supporter, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je parle de mise en péril, quand on a des poils dans un espace qui, où on sait qu'ils ne seront pas acceptés, on sait qu'on va être regardé, on sait qu'on va être jugé?
Oui, tu sens que le jugement que tu vas ressentir du regard des autres sur toi va être trop accablant et va t'empêcher de profiter du moment, c'est ça?
Exactement. Autant le regard sur mes kilos, sur mon poids, celui-ci, il ne m'accable plus. Quasiment, enfin, très vite fait, des pensées parasites, tu vois. Autant le regard sur mes poils, dans ce contexte très précis-là, je me sens trop en péril, en fait. Je pourrais pas être libre de mes mouvements si j'avais des poils sous les bras, en fait.
Et pourquoi est-ce que les poils, c'est encore un sujet et pas le poids?
Ah, c'est une bonne question, ça. Parce que le poids, je peux pas choisir, je pense. J'ai pas eu d'autre choix que d'accepter les poils. Depuis que je suis en sixième, on m'a fait bien comprendre que, bah, en deux temps, trois mouvements, ils étaient partis, tu vois. Avec un peu de douleur, ou 10 euros chez l'esthéticienne, ou un coup de rasoir, bah, il n'y a plus de poils, quoi. Donc, il n'y a pas à faire ce travail. C'est pas nécessaire, le travail de l'acceptation de ces poils. Tu peux juste les enlever. Donc, moi, j'ai fait le travail d'acceptation totale, où j'étais dans Paris, je me suis décolorée les poils en rose, les poils sous les aisselles, à un moment donné. Enfin, j'ai fait le parcours.
T'es quand même allée au bout de cette idée-là.
Complètement. Ouais. Ah oui, les poils des jambes, les
poils... Je veux bien qu'on... Excuse-moi, je t'arrête un peu. Parce que pour comprendre bien, en fait, ton rapport avec les poils, je veux bien qu'on... J'ai l'impression de parler de ton ex. Pour comprendre vraiment le contexte avec ton ex, comment c'était, tu vois, vos hauts et vos bas. je veux bien qu'on revienne à... qu'on rewind, en fait, quelques années plus tôt, et justement qu'on revienne à... pourquoi avoir fait le choix du total poil? Comment t'as vécu ces 3 ans et pourquoi en être revenu? Et peut-être, si tu veux bien, nous refaire un peu la chronologie.
Ok. J'ai eu vraiment progressivement, entre 2013 et 2016, je dirais, une prise de conscience féministe assez intense. J'ai fait une année d'études à l'EHESS, l'école de hautes études en sciences sociales, en sociologie du genre et de la sexualité. J'étais passionnée par les questions d'inégalité de genre, quoi. Et du coup, j'ai commencé à vraiment avoir le seum de devoir m'épiler. Et je trouvais ça injuste. J'étais en mode, mais pourquoi moi je dois enlever mes poils alors que l'autre moitié de la population n'a pas du tout l'obligation de le faire? Pourquoi je dois payer 30 euros chez CCN? Pourquoi je dois avoir mal?
Vraiment, ça coûte une fortune en plus.
Mais ouais.
On n'a pas parlé d'argent encore, mais...
Ça coûte une blinde.
C'est un budget de malade.
Et à quel moment tu passes un bon moment? Tu passes pas un bon moment à te faire épiler. T'as mal. Enfin, c'est rarissime les personnes qui aiment ça. Et moi, je me souviens mais d'avoir un seum monstrueux à être avec mon épilateur pendant une heure à m'épiler les jambes parce que j'avais trop mal et je devais me mettre 3 épisodes de Friends pour supporter. Enfin, et j'étais en colère. Je ne veux pas ça. Et donc progressivement, j'ai vraiment laissé pousser mes poils de plus en plus, où je m'épilais plus que très occasionnellement. Et
t'as fait toutes les zones d'un coup, ou c'est venu progressivement, d'abord les jambes, ou d'abord les aisselles, ou d'abord la chatte?
Ouais, d'abord le maillot, ouais. Vraiment de laisser pousser les poils de touch tranquilles. Après les jambes, notamment en hiver, où elles sont tout le temps cachées, couvertes. Et après, les aisselles, ça a été le plus... le statement, tu vois. Enfin, on le sait, les aisselles poilues, c'est le statement. C'est pas neutre politiquement. Tu as des poils sous les aisselles en tant que femme, tu es une femme féministe. C'est genre... Tu es mise dans une case immédiatement. Après, c'est très stylé, la case de la femme féministe. On aime bien cette case-là.
Oui, mais c'est dommage de devoir appartenir à une case, de pas juste pouvoir faire ce que tu veux, quoi.
C'est ça. De pas pouvoir juste... faire ce que tu veux avec ton corps sans que ce soit analysé par le prisme de la politique. Et du coup, ça a été le dernier bastion qui, du coup, a été le premier à tomber là, maintenant que j'ai... Donc, je fais de la bachata quasiment tout le temps. Donc, je me rase une fois toutes les 2 semaines les aisselles, tu vois.
Et... Alors, comment c'est revenu? C'est la bachata qui t'a fait... C'est vraiment la bachata,
quoi. Mais c'est que ça, c'est le contexte. C'est ce monde-là, cette danse-là, le fait que ce soit un espace qui n'est pas du tout déconstruit, où je ne me sens pas en sécurité. Avant ça, j'avais pas d'autres espaces où je me sentais pas en sécurité.
Mais quand tu sortais en boîte ou dansais dans des endroits avant avec tes poils d'aisselle rose, là tu te sentais plus à l'aise qu'à la bachata.
Je choisissais mes espaces, j'allais pas faire la fête en boîte, tu vois, j'allais faire la fête en soirée avec des potes, j'allais en festival queer, enfin tu vois, c'est, j'y vais
encore
d'ailleurs.
C'est hyper révélateur ce que tu dis, ce que ça veut dire qu'en gros, soit t'es une personne politisée et donc tu vas faire des choix même de tes sorties en fonction d'eux. Enfin... Ouais, ça me chagrine un peu quelque part ce que tu dis, ce que ça veut dire que finalement, bah, même en étant féministe politisée, t'étais pas... Enfin, est-ce que t'étais vraiment libre du coup? Parce qu'à partir du moment où t'es en train de choisir les lieux et tu vas pas parce qu'il y a tel groupe qui joue que t'as peut-être trop envie de voir en concert, enfin...
Complètement. Oui, et puis même, c'était vraiment... je me souviens maintenant qu'on en parle, en 2020, après... Septembre 2020, après le premier confinement, je crois que c'est ça, je suis allée dans une salle de sport qui était dans la caserne militaire, parce qu'elle était pas chère. Et là-bas, donc je ne m'épilais pas, mais par contre, je n'ai à aucun moment porté des débardeurs. J'étais toujours, je faisais exprès d'y aller avec des t-shirts, où même quand je levais les bras, ça cachait mes aisselles. Donc même si je ne m'épilais pas, j'avais quand même des stratégies d'évitement, tu vois. Donc, en fait, c'est juste que là, ma stratégie d'évitement, elle est, bah, je rase parce que je vais être en débardeur et je veux danser tranquillement. Mais en fait, déjà, effectivement, pendant que je ne m'épilais pas et que je ne touchais absolument pas mes poils, j'avais déjà des stratégies d'évitement. À la plage, je portais plus des shorties que des maillots de bain échancrés. Truc con comme ça. Et du coup, j'ai juste poussé la stratégie d'évitement jusqu'à me raser parce que je veux vivre ma passion tranquille, tu vois.
Et tu te sentirais comment, tu penses, si on te faisait des réflexions?
Là, actuellement dans ma vie, je n'ai pas la patience de débattre. Je n'ai pas la patience d'avoir une conversation sur est-ce que j'ai le droit d'exister avec mes poils ou pas. Donc je préfère juste enlever la possibilité de la conversation. C'est nul,
mais
hein.
Du coup, ça améliore pas les mentalités. Est-ce que ça...
Complètement.
On continue à creuser justement tous les soucis dus au patriarcat.
Je suis bien d'accord avec toi. Et c'est un peu cet espace-là où je décide de pas... de juste me fondre dans les codes. J'ai la chance d'être une femme cis où je suis vraiment ultra femme. Enfin, je performe la féminité et j'adore ça. Je me fonds parfaitement dans les codes. Et du coup, dans ces moments-là, je profite de ça et je prends ce masque-là, tu vois, je suis une femme cis et je ne remets pas en question les codes de la société. Mais c'est ponctuel, tu vois, c'est-à-dire que justement, dans l'image que je transmets sur les réseaux sociaux, je vais avoir des poses où je vais lever les bras dans les photos que je prends, dans les reels, etc. Peu importe ce qu'il y a sous mes bras, que je sois rasée de la veille parce que je suis allée danser, ou que ça fasse 3 semaines que j'ai pas touché à mes poils, le contenu que je posterai sur les réseaux sociaux, là, pour le coup, il ne changera pas. Il sera complètement... pas du tout programmé par rapport à la présence de mes poils. Tu vois?
Oui.
Donc, je pense que j'ai quand même des espaces encore où c'est important pour moi de passer toujours ce message d'acceptation de son corps. Parce que c'est encore ce que je ressens, tu vois.
Oui.
Mais dans l'acceptation de son corps, il y a aussi faire ce qu'on en veut sans avoir à se justifier. Et donc, là, actuellement, dans ma vie, c'est plus confortable pour moi de les enlever, d'en enlever une partie, je le fais parce que c'est mon corps, tu vois.
T'as des souvenirs de deux phrases qu'on t'a déjà dites qui ont pu faire mal, qui ont pu te retrancher davantage dans cette stratégie d'évitement?
C'est pas que ça me fait mal, c'est que ça me fait souffler. Je souffle fort, je suis en mode... La flemme de vous convaincre que non, c'est pas sale parce que c'est sur une femme. La flemme de vous expliquer que ça pue pas. Enfin, tu vois, c'est... Oui, j'ai fait, notamment l'été dernier, j'ai fait plein de TikTok sur le fait que oui, on peut aller à la plage avec ses poils. Oui, on peut... être en débardeur et en short ou en jupe ou en robe avec des poils. Enfin, j'ai fait plein de contenu sur ça, un peu pédago, tu vois. Là, cette année, je ne sais pas si je vais avoir la patience pour ça. Parce que vraiment, les commentaires, c'était « Berk, c'est moche sur une femme, c'est sale. À un moment donné, c'est pas une question de choix, c'est une question d'hygiène. » Enfin, oui, évidemment, c'est lassant. Et en fait, en commentaire TikTok, bah, je le filtre, je le lis pas. Mais en vrai, en face à face, avec quelqu'un avec qui je viens de danser, je pourrais pas le supporter, je pense. Ça me mettrait trop mal. Donc, je veux juste pas que ça arrive.
Et ça a pu déjà arriver
En vrai, dans les échanges avec les gens et tout, j'ai juste eu des regards. Et je me souviens quand j'étais à Hawaï en 2018, c'était beaucoup plus facile de le supporter. Bon, j'ai passé 5 semaines à Hawaï, pas épilé, donc Hawaï, il fait très chaud. Donc,
complètement... Et puis 5 semaines, ça a le temps de pousser.
C'est surtout, c'était une époque où vraiment j'y touchais pas du tout, donc vraiment oui. C'était genre... Ouais, donc c'est là, la jachère c'est... totale partout.
C'était la vraie toile, là.
Oui, ah. On était sur une forêt, c'était très beau. Et je me souviens très bien que le regard des gens n'était pas du tout difficile à supporter là-bas. Il n'y avait aucun souci à être en maillot de bain, en débardeur, en short. Je ne sais pas, peut-être que les gens me regardaient moins aussi. Quand il y avait des regards, ils étaient accompagnés de sourires. Donc vraiment...
Est-ce que tu penses que ça vient des autres ou est-ce que toi aussi, tu n'étais pas dans ta... Tu n'étais pas dans ton cocon, tu étais dans un autre pays. Tu étais finalement dans un lieu plutôt neutre, pas là où il y a ta famille, pas là où il y a tes potes d'enfance ou de je sais pas qui. Et tout d'un coup, du coup, bah, tu peux aussi te dire « bah ouais, bah, je suis moi, finalement les gens ici, bah, qui m'acceptent, qui m'acceptent pas ?» Et du coup, peut-être que ça se passe mieux aussi parce que...
Ouais, t'as raison, je pense que c'était les deux ensemble. C'était à la fois le fait que Hawaï, c'est le chill absolu. Enfin, tu vas là-bas, t'es détendu immédiatement. T'arrives, c'est incroyable comme endroit. Enfin, Big Island, en tout cas, là où j'ai été, l'île où j'ai été. Donc, il y a ça. Et effectivement, à côté, c'était littéralement l'endroit le plus loin de ma vie possible. Vraiment, c'est exactement l'opposé de la Terre par rapport à la France. Donc ça a dû aider, évidemment. Je me dis, je vais sans doute jamais revenir ici, je vais sans doute jamais recroiser ces gens. Donc oui, effectivement, devait y avoir de ça. Mais il y avait vraiment cette ambiance de... On s'en fout de tout ici. Enfin, on est détendu sur tout, quoi. Ça y compris. Et pourtant, j'ai vu personne d'autre avec des poils. Hein.
Ouais. Ouais. Ouais, donc peut-être qu'un bon petit conseil pour soi, ce serait de se dire, prochaine fois que je vais dans un tel ou tel lieu, je me dis, tu sais quoi, je t'enverrai plus jamais. Tiens, sniffez mes poils. Sniffez. Tu connais la branlette des poils? Attends, je te... Pardon, je suis partie loin là.
Ça doit faire mal.
Je sais pas, je suis partie un peu loin. Mais...
Ah, t'imagines? Non, sur le prépuce, c'est... Oh là, non.
Non, j'imaginais pas ça. J'imaginais plutôt une espèce de branlette espagnole, parce que la tête du mec, au lieu d'être entre tes seins, elle est entre tes aisselles, tu vois, genre...
Mais j'ai eu exactement la même image.
Mais du coup, il n'y a pas de prépuce. Elle a la tête.
Ouais.
Oui, non, mais c'est vrai que je suis partie... c'est pas du tout une branlette, du coup. Je raconte n'importe quoi.
Après, c'est une pratique en soi, on peut y réfléchir.
Je suis sûre qu'il y a des intéressés. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez frotter votre nez dans les aisselles de loup, c'est complètement possible.
Alors, je vais quand même créer un formulaire, hein, parce que je veux sélectionner les personnes, hein, parce que vraiment...
Envoyez des selfies de votre nez. Le nez sera sélectionné, attention.
Tu sais que j'ai des fétichistes des poils sur YouTube, parce que j'ai fait des vidéos parlons poils et kilos, essayage de lingerie, etc., sur comment... on peut être grosse, poilue et porter de la lingerie et être trop belle. Et vraiment, ça n'a pas attiré le bon public. C'est vraiment... Tu lis les commentaires de cette vidéo, c'est un enfer.
C'est quoi ?
C'est vraiment des gens qui veulent m'épouser, des hommes de d'autres pays, du monde entier. Si tu regardes les stats, ça vient du monde entier. Ils sont tous vraiment pas très jeunes et ils veulent tous me ken. Et c'est vraiment très graphique. Et j'en suis arrivée à un point où je pouvais pas contrôler tous les commentaires parce que ça me dégoûtait tellement de les lire que j'ai juste arrêté de les lire. Donc du coup, il doit y avoir des centaines de commentaires absolument un peu dégueu.
Donc c'est un complexe français, en fait. C'est peut-être un complexe... Enfin, entre ce que tu dis de Hawaï et là, les commentaires et tout, est-ce que c'est pas un complexe méga franco-français, cette histoire de poils et de poids?
Je sais pas. On est peut-être très... Effectivement, on est très porté sur le physique. Mais bon, tu vois, dans tous les pays autour, limitrophes, c'est un peu similaire quand même. Et j'ai des fétichistes des poils dans mes DM qui sont très français, hein. Franchement.
Voilà, vous n'êtes pas épargnés, hein, voilà.
Ouais, non. Mais pour moi, le fétichisme des poils, tu vois, c'est la même chose que le refus d'une femme poilue. Pour moi, c'est pareil. Parce que du coup, c'est une forme d'objectification. Tu sais, c'est pas, t'acceptes pas la personne comme elle est. Tu cherches des personnes avec des poils. Et donc, du coup, pour moi, c'est une forme d'objectification quand même. Parce que moi, ça me fait pas plaisir de recevoir des messages en mode « j'adorerais me foutre le nez dans tes aisselles. » Je pense que j'ai vraiment reçu ce commentaire un jour. Hein.
Mais j'ai l'impression que c'était pas ça que t'avais au bord des lèvres.
Ouais, non. J'ai eu beaucoup d'images d'un coup. J'ai eu tous les commentaires que j'ai reçus et j'étais en mode « aïe, aïe, aïe. »
Non, juste le nez dans les aisselles.
Le nez.
Ah là là, bah oui, après il y a de la fétichisation sur tout.
Mm-mm.
C'est sûr, comme il y a un dégoût de tout également.
Ouais, complètement.
Mais quelque part, je pense que je préfère la fétichisation plutôt que. Enfin, je me dis, je préfère avoir trop de gens qui aiment trop que tout soit possible plutôt que l'inverse, quoi.
Mm-mm.
Comment t'as, dans ta vie perso, du coup. Que ce soit lié au poil ou au poids, enfin les différents complexes liés au corps. Vu que c'est le sujet aujourd'hui, vu que toi, bah, tu traites vraiment de ça dans tout ce que tu fais, un peu dans ton quotidien, que ce soit l'acceptation de soi et du corps. Quelles ont été tes... Est-ce que tu as eu des histoires perso, en fait, qui t'ont poussé un peu vers ce chemin-là?
Il y a eu... En fait, bon, je suis actuellement en couple depuis un bon moment, depuis 6 ans, un peu plus, et on était ensemble avant, mais en gros, on a eu une période d'un an où j'ai été célibataire et où j'ai bien profité. Voilà. Et c'est à ce moment-là où j'étais très fâchée.
T'as foutu tes aisselles dans tout plein de nez.
Ah ouais, les nez des gens sont allés dans mes aisselles, beaucoup. Et il y a vraiment eu une période où c'était concomitant. Je couchais avec plein de gens et en même temps, j'étais de plus en plus fâchée avec le fait de devoir modifier mon corps pour plaire à ces gens. Et en fait, j'ai eu un mec, j'étais sur Tinder, vraiment pas une super appli pour rencontrer des gens bien. Bon, pas tous, hein, mais bon, à cette époque-là... Je suis un dinosaure apparemment. À cette époque-là, c'était pas hyper fun les gens qu'on rencontrait. Et il y a un mec, je sais pas du tout si c'est le cas maintenant, mais à l'époque, tu pouvais synchroniser ton Insta avec ton profil Tinder. Et du coup, il y a certaines personnes qui n'allaient pas jouer le jeu des matchs, mais qui allaient t'écrire sur Insta. En mode utiliser la messagerie d'Insta pour t'écrire, quoi.
Ils ont tellement peur de se prendre des vents qu'ils disent « Attends ».
C'est un peu ça. Et donc, il y a un mec qui m'a écrit... Et qui me fait un compliment sur mon contenu. En mode, c'est parce que j'étais déjà sur YouTube, du coup Insta c'était un petit peu une plateforme que j'utilisais aussi en 2018. En 2016, pardon. Et du coup, il me fait des compliments qui étaient sympas, qui étaient bien, c'était pas chelou, quoi. Et du coup, j'ai commencé à discuter avec lui et tout ça. Et il avait un gros avantage, moi je dois avoir un fétichisme. J'ai un fétichisme de l'anglais. C'est-à-dire que si tu me parles anglais, je n'ai plus aucun jugement critique. C'est une catastrophe.
You know that I speak English, right?
Ouh.
I mean, we can totally continue in English. I mean, that's not a problem. Lou.
Oh. Oh, damn. Non, alors, je spécifie encore plus. J'ai vraiment une passion pour l'anglais et j'ai un fétichisme, je pense, oh, yes. De l'accent british.
Oh, dang.
Damn it.
Je le fais pas bien. Would you like a cup of tea?
Oh, yes, please.
Oh, I'm just coming, just right away. You can just sit there, and I'm coming.
I'm coming.
Et
vraiment, il me parlait en anglais. J'étais en mode, ah, je suis foutue. Je me dis vraiment, genre, le gars était irlandais, en fait. Donc
il n'y avait pas de messages vocaux à l'époque, donc non. C'est au texto. Ouais.
C'était que texto.
Et il à était... l'époque, parce que nous sommes des dinosaures.
Nous sommes des dinosaures, 2016, c'était à l'époque. Et il n'y avait pas de messages vocaux. Et vraiment, il m'écrit en anglais. Je me dis, il est plutôt beau gosse. Il habite juste à côté de chez moi. Je dis, ouh, lolo. Ouais. Mais j'étais en train de terminer une histoire à cette époque-là. Et donc, je lui disais, bah là, maintenant, j'ai le seum. j'ai pas très envie d'aller en date, quoi. Et il me dit, ah non, mais c'est pas un date, t'inquiète, faut juste que tu m'aides à sortir de... Là, je suis en soirée, mon collègue a fait une soirée, il a 17 ans, c'est un enfer, put me out of my misery, genre, viens, on sort. Et juste, je veux sortir de chez moi, quoi, je peux pas... Je connais personne encore parce que je viens d'arriver, donc s'il te plaît, juste, sors avec moi, on va se promener, quoi. Et je me disais, ok, mais c'est pas un date, frère, genre, vraiment. Et donc, je suis sortie pour le retrouver, à 22h, un mercredi soir. Je te dis tous ces détails parce que je suis en train d'écrire un bouquin où je suis obligée d'aller refouiller dans toutes ces archives.
Mais j'adore les détails, j'adore le contexte. Give me some context, baby.
Okay. Okay. J'ai un projet de livre.
Put me out of my misery. Forcément, j'y ai pensé tout de suite,
évidemment. Il se trouve que depuis 2018, j'ai un projet de livre qui s'appelle La Liste, qui serait complètement autobiographique, parce qu'en fait, il se trouve qu'avec ma meilleure amie, on a commencé à coucher avec beaucoup de gens, et on faisait un jeu qui était de faire la liste de nos conquêtes l'une de l'autre. Et on s'est rendu compte que j'oubliais des gens, moi. J'oubliais des gens avec qui j'avais couché. Et donc on s'est dit, il faut qu'on écrive une liste, parce que sinon on va les oublier. Et donc j'ai commencé à faire une liste sur mes notes de téléphone, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je pourrais écrire un bouquin où je fais un chapitre par personne.
Alors c'est hyper drôle que tu racontes ça, parce que j'ai aussi commencé à faire ça.
C'est pas vrai?
Que j'ai appelé, pour l'instant je l'ai appelé l'abécédaire de mes conquêtes.
J'adore.
Et donc chaque lettre, c'est le prénom d'une personne.
Mais c'est trop... Attends, mais on a eu la même idée et on est toutes les deux en train d'écrire le truc. On va le sortir ensemble. On va le proposer aux éditions. Eh hey. Faites-en une série.
Parlons-en.
Incroyable. L'abécédaire de mes conquêtes, j'adore. Moi, ce sera la liste.
Voilà, très bien.
On va voir si une maison d'édition l'accepte et qu'ils acceptent ce titre, mais c'est l'objectif. Et donc, je suis sur ce monsieur qu'on appellera le voleur de ukulélé. C'était ça, l'objet que je voulais t'apporter pour cet épisode, c'était un ukulélé parce que, en fait, il m'a pris mon ukulélé et j'ai galéré pendant 6 mois à le récupérer.
Attends, ce que vous êtes vu dans la rue?
Mais ça, c'était après, du coup, pardon, je mélange toutes les timelines, mais notre histoire, elle a duré un petit peu.
Ah, donc finalement, c'était un date.
Ah bah, tu spoil.
c'est toi qui spoil, oui, tu parles du ukulélé.
Tout à fait. Mais bref, le voleur de ukulélé, parce qu'on va essayer de l'anonymiser.
Du coup, il est venu chez toi, quoi. Voilà.
Je suis chez lui. Ah. Bon. Donc, je le retrouve en me disant, vraiment, on va se promener. Donc, j'étais pas maquillée, j'étais pas sapée. En fait, c'était ça qui était stylé, c'est que j'étais pas dans une optique de séduction, pas du tout. Même s'il me parlait anglais. Mais je me suis dit... Genre vraiment, j'ai pas la tête à ça, quoi. J'étais pas dans un bon mood à ce moment-là. Et donc, tout le date, enfin le date, toute la soirée, on a marché dans Paris. C'était vraiment le truc complètement cliché, quoi. À parler anglais dans les rues, à se retrouver sur le Champ de Mars, avec la Tour Eiffel illuminée, avec une bouteille de vin. Enfin vraiment, c'était caricatural. Mais c'était trop bien. Et il m'a vraiment dit, oh bah, il commence à faire froid, j'habite à côté, viens, on va chez moi, mais on continue à discuter, quoi. C'était vraiment ça. Donc toujours, je me dis, bon, ça peut déraper, mais c'est possible que non. Et donc à ce moment-là, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'étais pas du tout épilée, vraiment pas, puisque je n'avais absolument... Encore, déjà, à cette époque-là, j'étais fâchée et je m'épilais de moins en moins, mais j'avais encore ce truc de coucher la première fois avec un mec que tu connais pas, j'ai pas envie d'être vulnérable. Donc, c'était encore quelque chose que j'aurais pu faire, m'épiler, tu vois, pour ce genre de circonstances, cette situation.
Et donc, montrer ses poils, ça revient à être vulnérable.
Complètement. Ah ouais, moi, pour moi, c'est... Oui, bien sûr, c'est... Je ne rentre
Pourquoi
pas dans les... Je ne performe pas la féminité quand j'ai mes poils. Je ne la performe pas comme c'est attendu de moi.
Mmh. Et pourquoi ne pas performer, c'est montrer sa vulnérabilité?
Parce que t'enlèves le filtre, t'enlèves le masque, t'es toi-même, tu t'exposes aux critiques, tu t'exposes à être jugé. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. C'est tu t'exposes à ce qu'on me dise. Je préfère sans. J'ai des mecs qui m'ont dit ça. Je préfère sans. Tu vois.
Bah moi, je préfère quand tu bandes bien dur.
Je
dis rien quand c'est pas le cas.
Je préfère quand tes couilles elles sont très lisses et qu'elles sont pas de poils, parce que c'est quand même pas très agréable d'avoir des poils en bouche, frère. Donc à un moment donné, je ne peux jamais te demander de le faire, par contre. Et je te sucerai les couilles quand même.
Voilà.
En fait. C'est ça. Bref. Et donc, ce cher garçon...
Le nez
garçon,
dans les selles.
Le nez dans les selles. On y arrive. On y arrive. Et du coup, il se met... Enfin, on continue à discuter, on fume des clopes, on boit, machin. Enfin, il boit surtout. Irlandais, alcoolique, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Terrible, hein, mais... Il répondait vraiment au cliché. Et je sais pas comment. Je ne me souviens plus. Vraiment, j'ai essayé pour le bouquin. J'ai essayé de me creuser la tête. Je n'ai plus le moment pivot. Mais la scène d'après dont je me souviens, c'est vraiment dans ma tête, c'est on est passé de boire et fumer sur sa terrasse à moi sur lui dans son lit. Je ne me souviens plus de la transition. J'ai complètement oublié ce qui s'est passé au milieu. Et donc à ce moment-là, on se dessape, tu vois, je suis vraiment assise sur lui en train de s'embrasser. Enfin, le truc, les volets sont fermés, les rideaux aussi, il doit être 3h du matin. Je suis sur son lit, on a dû mettre de la musique rock anglais, enfin voilà. Et donc il va pour m'enlever mon haut.
The Clash, c'est un truc vraiment original.
Ouais, sans doute. Put me out of my misery, tu vois, enfin un truc comme ça. Et là, je sais plus comment je lui dis en anglais, mais je lui dis en gros, je suis pas épilée. Et vraiment, j'étais pas épilée. On était au mois de novembre. Je n'avais sans doute pas vu un rasoir ou un épilateur sur tout mon corps depuis le mois de septembre, quoi. Donc j'avais beaucoup de poils, parce qu'en plus, je suis châtain brun. Donc, ils étaient présents, quoi. Et je lui dis, je suis pas épilée. Et il m'a vraiment répondu, sans une once de... Tu sais, il a pas ralenti son geste, il a pas regardé, il a juste dit moi non plus.
Ah, oh, waouh, ça c'est cool.
Et là, il y a eu un truc qui s'est débloqué. Il y a vraiment eu un truc où je me suis dit, il s'est pas arrêté pour regarder, il s'est pas arrêté pour dire c'est pas grave. Genre, il a vraiment, genre, sa réaction a été parfaite. Il a pardon, je fais grincer la chaise et tout. Il a vraiment dit moi non plus. Bah oui. C'était aussi simple que ça.
Puis il a enchaîné direct après. Enfin, vous avez enquillé sur autre chose, quoi.
Exactement.
Sur la suite.
Ouais, il a pas ralenti le geste d'aller me faire un cuni parce qu'il y avait plein de poils. Il a juste fait du sexe avec moi, normal, mais avec les poils, vraiment, comme rarement j'avais fait du sexe avec des poils comme ça, surtout la première fois avec quelqu'un.
I don't care if you're not shaved, yo. I shave neither. J'essaie de faire l'accent irlandais, mais c'est dur.
C'est impossible. Impossible.
I'm not shaved neither. Neither. Oh.
Non, je peux pas t'aider là, je te laisse toute seule. Vraiment, je t'observe, je t'admire, mais je participe pas. Hein.
Attends, je peux faire une toute petite aparté. Tu as regardé la série Sons of Anarchy?
Non.
Ah bah.
Tu me recommandes? Okay. Ça me rappellera des souvenirs.
Non, mais il y a un des persos, il y a un des personnages. En fait, Sons of Anarchy, c'est une série hyper masculine, en l'occurrence. Genre vraiment, là, on parle de soucis de regard, du jugement sur la féminité. Mais alors, Sons of Anarchy, en termes de soucis de masculinité, on y est à fois mille. Ouais. C'est sur une mafia, c'est sur la mafia. Anglaise, enfin galloise, je sais plus trop. Enfin bref, j'ai regardé il y a longtemps, j'avoue, je sais plus très bien le pitch. Mais en gros, voilà, c'est sur des motards, donc ils sont tous motards, ils sont tous habillés en cuir, ils ont tous la veste avec écrit Sons of Anarchy dans le dos. Enfin voilà, et c'est vraiment les bros, tu vois, genre, on y est à fond. Et t'as un des persos bah, qui vient de la branche de la mafia des motards d'Irlande.
Okay.
Donc il a ce gros accent et voilà, la moitié de la série, tu comprends pas ce qu'il dit, mais il y a un truc sexy quand même, quoi.
La moitié de la série, du coup, on voit ce qu'il dit. Juste sois beau.
Mais non, mais il est même pas beau de base, en fait, ce comédien, mais ça le rend beau, enfin, ça le rend charismatique. Du coup, t'es là, genre, ouais.
C'était peut-être ça avec le voleur de ukulélé. C'était peut-être c'était pas que l'accent, enfin, le fait d'être anglais, c'était l'accent irlandais qui était en mode ouf.
Ouais, ça joue.
Alors, le sexe en anglais, vraiment, c'est incroyable. Je l'ai vécu qu'avec lui, du coup, et pour le coup, c'était pas particulièrement un bon coup. Ça s'est pas bien terminé puisqu'il m'a volé mon ukulélé quand même, wesh. Mais vraiment, le fait qu'il me murmure des mots crus en anglais, incroyable. Bref, après
alors
ça...
Quoi c'était quoi la...
Je me souviens plus.
Oh mais
c'est
non.
Ça qui est terrible. En fait, je me souviens. Je te jure, c'est horrible.
Tu me coupes la chic, là.
Mais ouais, mais je pense que vraiment que dans mon livre, je vais devoir inventer des trucs, je sais pas. Désolée, hein, je le dis, ce sera peut-être pas 100% autobiographique, parce que j'ai... En fait, je me souviens de la vibe. Voilà, je me souviens de la vibe.
Fuck me hard. Non.
Ouais, peut-être, quelque chose comme
peut-être,
ça.
Peut-être, j'attends.
Je me souviens évidemment de lui en train de dire oh fuck avec les yeux qui se révulsent en arrière quand j'étais en train de me suicider, tu vois, ça c'est en mode, c'est une très belle vue.
Ça
on aime bien la musique dans les oreilles de ça c'est chouette effectivement. Et après ça en fait, il m'a vraiment décoincée sur ça parce que j'ai eu un coup d'un soir juste après que mon histoire avec lui soit terminée avec un Québécois. Il était incroyable. Il était incroyable, vraiment.
On reste dans les accents. Hein.
Oui, c'est vrai, tiens. J'ai enchaîné des... Oh là. Et après, celui d'après, c'était un Péruvien.
Mais
c'est...
Ah ouais.
Eh, hey, international. Et vraiment, lui, pour le coup, j'ai rien dit. Tu vois, j'ai pas dit, je suis désolée, je suis pas épilée. J'ai pas mentionné la présence de mes poils. J'étais pareil, tu vois, vraiment, c'était au moment où c'était mais zéro, je ne touche pas à mes poils nulle part. Et c'était un coup d'un soir, et on n'avait juste pas parlé, tu vois. Et vraiment, il n'a rien dit non plus. Et c'était trop bien. C'était neutre, en fait. À un moment donné, je me souviens, genre, j'avais les bras levés, tu vois. Je devais être en position un peu lascive dans les draps, quoi. Et je me souviens vaguement d'avoir été d'un coup très consciente que j'avais beaucoup de poils sous les bras. Mais à part ça, c'était vraiment... Bah, c'était pas un sujet. Et ça, c'était hyper libérateur.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.